Bonjour à toutes et tous. Je pense que vous avez vu le titre. C'est une excellente idée pour le mois de novembre, quand les jours raccourcissent, qu'on a un peu le moral dans les chaussettes, et puis on arrive à l'église, et puis le sujet, c'est le mal et la souffrance. Alors, toutes mes excuses, mais je vais tout de suite faire une grande preuve de culpabilité, c'est de votre faute. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 5 septembre, il y a Jonathan Serré qui vous a posé quelques questions pour savoir quelles étaient les questions que vous posez le plus souvent vos voisins, vos amis, vos collègues de travail qui étaient non-croyants. Et vous savez ce qui est ressorti largement en tête ? Ben, c'est justement les questions qui tournaient autour du mal et de la souffrance. Et puis ce matin, je vais en prendre une. Si Dieu est amour et tout-puissant, pourquoi y a-t-il autant de mal dans le monde ? Alors, vous voyez que c'est une question assez facile à résoudre. Je demande de suite votre indulgence, que je sais très très forte dans cette communauté. Mais il y avait aussi d'autres questions. Comment un Dieu qui nous dit qu'il nous aime peut permettre autant de souffrance ? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de mal sur Terre ? Pourquoi y a-t-il des guerres ? Pourquoi le mal dans le monde si vous dites que c'est un Dieu d'amour ? Et quand on voit comment les chrétiens se comportent, comment croire que Dieu est bon ? Alors celle-là, elle est un peu différente, je ne vais pas forcément la prendre, mais je suis sûr que ma collègue Myriam qui prêche la semaine prochaine va pouvoir y répondre de manière tout à fait adéquate. Alors, je vais tout de suite vous décevoir, parce que je ne vais pas réussir à répondre à ces questions. Voilà, comme ça c'est clair, vous pouvez rentrer à la maison, je me frotte les mains, je claque un peu des doigts comme avant pas dans le champ. En tout cas, je ne vais pas y arriver de manière directe. Si je me pose la question « est-ce que j'ai faim ?», là c'est plutôt non, je sors du petit-déj, ça va encore, mais peut-être dans une heure et demie, quand on préparera la raclette, je vais dire « oui ». Est-ce que j'aime les fraises ? C'est plutôt oui, à part celles qui viennent d'Espagne, parce que j'ai une mauvaise conscience, donc c'est seulement les bio de Genolier. Mais là, je peux dire oui ou non. C'est facile. Pourquoi y a-t-il autant de mal dans le monde ? Un peu plus difficile de répondre par oui ou non, déjà que ça commence par pourquoi, la question, c'est toujours un peu spécial. Dans votre couple, si votre conjoint ou votre conjointe vous pose une question pourquoi, généralement, ça sera un peu plus funky à répondre. Hein. Et je me doute aussi que je ne suis pas le premier à essayer de répondre à ces questions-là. Par contre, je me rends compte que ça fait comme 7 ans que je suis dans cette église, je n'ai pas abordé une seule fois la question encore. Donc, de toute manière, j'allais y passer. J'y passe maintenant. C'est intéressant de voir que c'est des questions qui ne sont pas posées en premier lieu par des chrétiens. Et je trouve ça très intéressant parce que dans notre manière d'y répondre, on va essayer de répondre, de savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux non-chrétiens par rapport à notre foi chrétienne. Mais avant tout, ça dit aussi que ces questions, si on ne les aborde pas très souvent, c'est qu'elles nous viennent un peu nous chercher. Elles viennent nous chercher dans notre foi. Elles nous posent peut-être des questions aussi un peu existentielles pour notre foi chrétienne. Et je trouve que c'est une forme de courage d'oser s'y arrêter. Le plus simple, ce serait peut-être de feindre un peu la différence. Ça n'existe pas vraiment. Ou bien faire juste « Pourquoi y a-t-il le mal dans le monde ?» Un haussement d'épaule, genre cette question elle est tellement vaste que ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'y répondre. On pourrait peut-être avoir une petite pointe d'énervement, mais on va dire « Mais pourquoi il me pose cette question-là » C'est vraiment casse-pied. Ou alors, on peut aussi lever les yeux au ciel dans un élan très croyant, en tout cas en apparence, mais plutôt exaspéré dans le fond. Hein. Oser s'arrêter sur cette question, c'est oser s'arrêter sur une question qui questionne ma foi. Et ça, ce n'est pas facile ni très agréable. Par contre, je fais le pari avec vous que ce sera riche, fructueux et un facteur de croissance, de maturité pour tout le monde. Il y a un auteur que j'ai beaucoup lu, que je vous conseille, son petit livre, il s'appelle Louis Schweitzer. Puis il nous a dit « La théologie ne sert pas qu'à rendre compte de notre foi à ceux qui nous demandent de la justifier. Elle cherche également à creuser en nous-mêmes ces questions essentielles et existentielles. » Et là, ce qu'on fait ce matin, ça va exactement dans cette direction-là. Les questions des autres, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des dialogues avec des non-croyants, les questions des autres stimule et questionne notre propre foi à nous. Et ça, pour moi, c'est la portée de chaque chrétien d'oser y aller et d'une certaine manière, la mission aussi qui nous est donnée de pouvoir essayer de répondre à ces questions-là. Et finalement, on essaiera d'associer la foi et la raison, c'est-à-dire notre intelligence. Souvent, on les oppose. On se dit, si c'est foi, ce n'est pas forcément de la raison. Il y a tout un grand mouvement de toute la théologie qui essaye d'associer ces deux choses. La HET Pro, par exemple, qui est notre institut de formation, essaye d'associer la tête et le cœur. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Ce qui ressort de ces questions n'est pas si facile à discerner de prime abord. De quel type de mal parle-t-on? Est-ce qu'on parle du mal que l'on subit? C'est-à-dire mon petit frère qui m'a tapé sur le coin de la tête et puis j'ai mal à l'œil droit. Est-ce que l'on parle du mal un peu flottant, qui tout à coup s'abat sur quelqu'un au hasard, une maladie, des catastrophes naturelles? Ou est-ce que l'on parle du mal commis? C'est-à-dire que je sais qu'en tant que personne, en tant qu'être humain, j'ai commis quelque chose de mal, parce que généralement on le sait très bien quand c'est le cas, et du coup on éprouve une forme de souffrance et de culpabilité personnelle, c'est le mal commis. Finalement ce matin, je ne vais pas trop m'arrêter là-dedans, bien qu'il y ait de fortes différences. Je vais m'arrêter ce matin à un constat qui est déjà extrêmement difficile pour nous, Suisses du 21e siècle, à avaler, c'est que le mal est là. Je n'annonce rien d'extraordinaire. Et que ce mal, il engendre de la souffrance. On fait tout actuellement pour nous faire croire que le mal, c'est exactement le contraire, il n'est pas là. Tout ce qu'on nous propose en termes d'argument marketing, en termes de vie, c'est une vie de plaisir. Ouais, merci d'avoir soufflé, j'avais perdu le mot. Une vie de plaisir, exactement. Tout ce qui tourne autour de nous, la publicité, le marketing, même dans les discussions, tourne autour du fait que si le mal est là, c'est que ce n'est pas normal. Et toute la parole de Dieu, toute la Bible et toute la vie de milliards d'autres personnes dans le monde actuellement trouvent que c'est une grosse chimère que de penser ça. On est un peu dans un environnement chimérique, c'est-à-dire qu'il n'est pas réel, il n'est pas vrai. Il ne correspond pas à ce que la vie est réellement. Le mal est là, et là, je vais aussi m'en tenir là et pas disserter sur la question de son origine. Il est même, je dirais, ce mal omniprésent aujourd'hui comme dans le passé, en Suisse comme ailleurs. Et pour nous, Européens, il a atteint, je pense, une forme de poids culminant il y a 70 ans, avec ce qui s'est passé dans les événements de la Deuxième Guerre mondiale, avec des cas d'extermination qui nous marquent, je crois, en tout cas qui me marque dans ma conception et dans ce que je pense croire par rapport à cette question-là. Ce n'est pas simplement des cours d'histoire qui sont là pour nous plomber. Maintenant, je pense qu'on a presque de la peine à aborder ces questions-là parce qu'on va se dire que ça va plomber, comme le pasteur qui nous parle de ça le mois de novembre. Et puis, du coup, on met de côté. Je ne crois pas que les profs d'histoire, puis il y en a un qui est parmi nous ce matin, c'est pour plomber. C'est simplement pour se rendre compte que cette réalité fait partie de la vie et que ce n'est pas à mettre de côté. Ça a quelque chose à nous apprendre sur la manière dont on va vivre simplement notre vie. Le mal est là, et la Bible ne feint pas de l'ignorer, et c'est le motto que l'on veut suivre ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos téléphones ou vos Bibles, sans surprise dans 1 Pierre, parce que je me suis rendu compte que 1 Pierre parlait beaucoup de cette réalité-là, et du coup, je continue ma série sur 1 Pierre avec le chapitre 4. 3, on l'a plus ou moins fait, mais je l'ai un peu zappé, t'as raison. Bien suivi, Serge, ça fait plaisir. 4 au verset 12, et puis je vais lire dans la traduction « Parole de vie ». Amis très chers et amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Il continue, « Ne soyez pas surpris, car ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, car ce n'est pas étonnant. Nous avons tendance à considérer que le bien est normal et le mal l'exception. Pierre inverse la proposition. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est le mal, et considérer le bien comme un produit de la grâce. Je donne cette citation à Antoine Nuis qui commente tout le Nouveau Testament, puis qui, sur ce verset-là, nous invite à changer notre regard sur ce qu'est la vie réellement. La souffrance, on l'éprouve, on l'expérimente. Puis c'est un verbe qui revient extrêmement souvent dans toute cette épître de Pierre. C'est quelque chose dont on doit passer à travers. C'est quelque chose que l'on doit traverser. On ne peut pas se dire « je m'y soustrais ». On est obligé finalement, à un moment donné de sa vie, de la regarder en face et de l'expérimenter. Ce verbe « souffrir », il y a vraiment cette dimension où on ne peut pas faire autrement que de l'expérimenter. Puis je crois que ça nous parle à toutes et tous, si on est réel sur ce qui nous arrive. On peut essayer de s'en extirper, ça s'appelle le déni. Je pense qu'il y a des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus. Puis c'est une réaction défensive normale. Ce n'est pas ce que la Bible nous appelle à faire. Amis très chers, on y est dedans. On y est dans ce feu-là. Et on est appelé à passer à travers. Pierre admet que c'était une réalité pour les êtres humains et peut-être dans son cas, en particulier pour les chrétiens. On vient de commencer un cours ici à la Frate qui s'appelle « Résister d'une foi ferme » qui s'intéresse à l'Église persécutée. Là, c'est un cours peut-être plus sensible, cette réalité pour eux, qu'en tant que chrétien, on doit passer à travers le mal de la vie normale de tous les jours, comme ça peut nous arriver à chacune et chacun, et on doit passer à travers la persécution qui est spécifique pour nous chrétiens. Pierre, il parle à ces chrétiens-là qui doivent passer par rapport à cette situation spécifique à travers cette souffrance-là. Ce qui est frappant, c'est que d'emblée, la souffrance des chrétiens, et ça c'est mon deuxième point, elle est liée à la souffrance de leur Seigneur et Sauveur. Vous avez vu comme il lit tout de suite la souffrance que nous éprouvons à la souffrance à laquelle Jésus que Jésus a dû subir aussi. Et ça, ça signifie énormément pour nous. Ce Dieu d'amour qui est dans la question, pourquoi y a-t-il le mal s'il y a un Dieu d'amour? Ce Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il a choisi de faire de manière ultime? Sa parole ultime. Il a décidé d'envoyer son Fils dans le monde pour qu'il souffre et soit mis à mort. C'est sa volonté propre de Dieu. Il aurait pu choisir mille autres manières, puis c'est un peu ce que sous-entend cette question. Si Dieu est amour et en plus tout-puissant, il aurait pu choisir tous les moyens, toute la palette qui était à disposition, il aurait pu la choisir. Il n'y a pas de limitation à sa souveraineté. Mais dans sa souveraineté, sa parole ultime pour le monde, c'est qu'il a choisi d'envoyer son Fils épouser cette condition-là, donc de souffrance, et de l'épouser jusqu'à la fin en acceptant de mourir sur la croix. Puis il a accepté de se soumettre, je l'ai dit l'autre jour, à la décision politique des autorités de son époque. La souffrance des chrétiens, donc de nous, est liée à celle de leur Sauveur et Maître, à celle de Jésus-Christ. La souffrance même que nous vivons ne peut se comprendre qu'en s'identifiant à celle que Jésus lui-même a subie, a éprouvée, à travers laquelle il a dû passer. Quand il s'exprime dans le jardin de Gethsémané, quelques heures avant son procès, parce qu'il sait ce qui va lui arriver, et qu'il lui dit « Père, éloigne de moi cette coupe », il n'a pas envie d'y aller. Il n'a pas envie de subir la souffrance. Comme on pourrait le croire, comme dans la tradition chrétienne, il y a eu beaucoup d'éléments qui allaient dans ce sens-là. Il ne veut pas la souffrance pour la souffrance. Par contre, il décide de regarder la souffrance en face et de passer à travers. Et je crois que d'une certaine manière, aussi à ce niveau-là, il nous a ouvert le chemin et nous, à sa suite, en tant que croyants, on peut emprunter ce chemin-là. Le chrétien s'identifie aux souffrances du Christ et quand on dit dans les chants « suis-moi », on le suit aussi sur ce chemin de souffrance-là. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'on regarde cette question de la souffrance et du mal par le bon bout de la lorgnette, sachant que notre Sauveur et Seigneur a accepté de passer par ce chemin-là et qu'il n'a pas voulu le faire. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Le message d'amour de Dieu est précisément une réponse au mal qui est là. Dieu le sait mieux que quiconque que le mal, il est là. Notre Dieu, il est trois fois saint. Il ne supporte pas le mal, c'est un Dieu de justice. Il sait mieux que nous quelle est la nature du mal. Et ce qu'il choisit de faire, c'est de donner une réponse au mal en envoyant son Fils, Jésus-Christ, sur la croix. Il a décidé de laisser l'être humain libre de savoir ce qui était bien et mal, et sa réponse à lui, c'est de proposer ce qu'il nous a proposé à travers la passion. Son ultime parole, Dieu la prononce en son Fils Jésus-Christ, qui peut dire « Tout est accompli au moment où il meurt sur la croix ». Et c'est pour cela que je suis toujours frappé par la manière dont les plus pauvres, les plus défavorisés, ceux qui souffrent le plus finalement, quand j'ai voyagé, c'était ce qui m'a frappé le plus, de se dire que ces personnes-là s'identifient vraiment dans leur trip, dans leur expérience, à ce sauveur qui a passé par cette souffrance. Je regardais de l'extérieur avec mon petit regard de Suisse, puis je voyais ces conditions économiques déplorables, cette pauvreté, puis je me suis dit, puis c'était la question souvent de notre groupe, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à croire à Jésus, alors qu'au niveau des résultats, ben, c'était assez zéro, je veux dire, ils n'avaient pas d'eau potable, ils n'avaient pas d'électricité, ils avaient plein de maladies qui s'abattaient sur eux. Et pourtant, une foi absolument extraordinaire. En tout cas, une foi qui m'a marqué pour toute ma vie. Et puis, en réfléchissant, je pense, puis en essayant de la faire pour moi, je n'avais pas à m'identifier à leur manière de vivre, parce que ce n'était pas la même, mais je crois que cette foi qui nous réunissait, ils m'ont mis une sacrée punchline qui me marque encore toujours sur cette manière de comprendre qui est Jésus véritablement. Ce n'est pas un pourvoyeur de bénédictions comme ça, puis qui se dit « si tu en as, c'est bon, si tu n'en as pas, tu n'es pas bon ». C'est même le contraire de cela. Si on prend vraiment au sérieux ce que Jésus a fait sur la croix, c'est le contraire de cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas être pour un évangile de la prospérité tel qu'il est parfois prêché, parce que c'est un non-sens complet si on considère vraiment que Jésus est mort sur la croix et qu'il a accepté de le faire. De manière beaucoup plus intime pour moi, cette souffrance-là, quotidienne, elle m'identifie à qui est Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Quand je décide de mettre ma foi en Jésus-Christ, ce qu'on fait quand on accepte Jésus-Christ en nous, on décide aussi de croire que c'est ce Sauveur-là qui nous sauve, et puis pas un espèce de Dieu qui est déconnecté d'une réalité humaine. Il sait que notre réalité est souffrante, il choisit précisément de parler ce même langage que nous. Tout est accompli, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toutes ces paroles que Jésus prononce sur la croix, qui sont d'une profondeur extraordinaire, parlent de cette souffrance-là, de cette souffrance pour laquelle Jésus a ouvert le chemin pour nous. Donc, elles ne peuvent que dire, finalement, la solidarité phénoménale, je n'ai pas d'autre mot, de Dieu avec celle et celui qui souffre, avec celle et celui qui subit le mal. Jésus est là, au cœur de cette souffrance. Et ça, je crois que c'est un message d'une bonne nouvelle qui peut faire la différence et qui fait la différence dans nos vies de croyants. Lorsque l'on subit la souffrance, on sait par la foi que Jésus est avec nous. La difficulté, c'est peut-être de réussir à le prendre avec. De réussir quand on est assourdi de souffrance, quand on est pris dedans, on est vraiment pris dedans. Puis on se sent souvent très seul. Un peu presque abandonné, peut-être même des fois abandonné de Dieu. Et je crois que là, de pouvoir se rappeler cet essentiel de la foi en réfléchissant, en essayant de comprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole, c'est de se dire que Dieu décide par la croix que Jésus serait avec nous dans ces moments-là. Celui qui souffre, celui qui sait et celui qui souffre, Jésus est avec toi, Jésus est avec moi lorsque je suis dans ces situations-là. Et puis on le sait, la croix n'est pas le fin mot de l'histoire. Jésus n'y est pas resté sur cette croix. Jésus n'est pas resté dans le tombeau non plus. Et par sa résurrection, on nous l'a dit à travers le moment de l'ange, c'est vraiment aussi capital de voir les deux. Il a vaincu cette mort, ce mal et cette souffrance. Et là on dit « Alléluia ». Parce que vraiment, gloire à Dieu. On peut être pris dans cette souffrance, on peut être pris dans tout ce qu'elle a de négatif pour nous, mais je crois que la foi chrétienne, là aussi, nous fait voir cette réalité d'un œil différent. C'est que la souffrance, même si on est pris dedans, elle n'a pas le dernier mot. Et ça, c'est un fondement essentiel, peut-être plus qu'un baume au cœur qui pourrait nous faire du bien à court terme quand on est pris dans une situation de souffrance ou nous offrir une guérison immédiate. Je crois que c'est simplement de se dire que cette souffrance, même si je la subis puis qu'elle m'environne, elle n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas elle qui va gagner. Notre seule certitude, puis ça c'est plus compliqué à comprendre, et que notre délivrance complète n'est pas de ce monde. Il y a un côté tragique et difficile à surmonter, voire à supporter à ce niveau-là. Comment ça se fait que cette œuvre de Jésus-Christ à la croix ne soit pas totalement effective pour notre vie actuelle? Il y a un côté qui nous échappe, il y a une forme de mystère, et puis moi je pense que c'est la question que je vais poser à notre Dieu quand je serai au ciel, ce sera celle-là. Comment ça se fait que c'était peut-être pas plus effectif, cette réalité-là, quand on était sur terre? Mais je crois qu'il y a aussi une forme de sagesse à l'accepter. Si je reprends un verset clé de la foi chrétienne, qui nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et que j'essaie de les lier avec ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est la foi, ce serait de se dire que le mal n'a pas le dernier mot. L'espérance, ce serait de se dire que la souffrance et le mal ont une fin prévue, programmée, que Dieu, dans sa souveraineté, connaît, car il a toutes choses entre ses mains. Et l'amour, ce serait de se savoir aimer au-delà du mal et d'aimer, moi, en tant qu'être humain, au-delà du mal et de la souffrance qui pourrait me couper de l'autre. La foi, ce serait de dire que le mal n'a pas le dernier mot. L'espérance, c'est de se dire que cette souffrance aura une fin. Et l'amour, ce serait de se dire que c'est ma manière de vivre en sachant que le mal est là, dans notre monde. Je passe sur la deuxième partie de 1 Pierre 4, qui parle du mal que nous sommes capables de commettre, parce que je vois que le temps avance et puis je ne vais pas m'étaler dessus. On pourrait aussi faire toute une prédication là-dessus. C'est des versets 16 à 19. Et puis pour arriver à la conclusion, en essayant de répondre à cette question. Si Dieu est amour et tout-puissant, pourquoi y a-t-il autant de mal dans le monde? Alors, si vous êtes confronté à cette question-là au repas de Noël ou bien au repas de votre tante la prochaine fois, ou peut-être demain avec votre collègue de travail, ce serait de dire que oui, en tant que chrétien, on accepte cette réalité-là et on essaye de la regarder en face. Oui, le mal et la souffrance existent et on en est bien conscient. Et en tant que chrétien, d'essayer de faire comprendre à l'autre une autre image de Dieu, qui est peut-être cette image de Dieu un peu standard, tout-puissant, qui maîtriserait le tout simplement un peu à la manière d'un jeu vidéo, pour vous dire que le sauveur que l'on suit, puis là on peut prendre, je ne sais pas, l'image d'un crucifix qu'on voit quand même assez régulièrement. Je discutais encore avec mon cousin qui est plus croyant, puis qu'il allait dans le sud de l'Italie en pensant qu'il allait avoir beaucoup de soleil et puis beaucoup de plages. Puis en fait, il a plu pendant une semaine, puis qu'est-ce qu'il a dû faire? C'est visiter des églises. Alors du coup, ça nous a offert plein de sujets de conversation aussi avec ses enfants qui ont découvert toute une série de choses. Et ce qui a le plus frappé ses enfants qui n'étaient jamais vraiment allés dans une église, c'est quoi? C'est la croix avec Jésus dessus. Et puis là, de se dire, il y a un message qui est quand même extrêmement fort pour nous en tant que croyants, c'est que notre sauveur, c'est ce Jésus-là qui passe aussi, comme nous pouvons le passer, par la souffrance. Et je crois qu'on dit quand même quelque chose d'extrêmement fort à ceux qui nous entourent, si on dit que notre sauveur, ce n'est pas quelqu'un qui est complètement éloigné de la réalité, mais qui décide de passer par là où on passe. Ça peut être paradoxal à comprendre, hein, puis pour nous c'est aussi paradoxal à comprendre, que la bonté, la bienveillance s'exprime dans la souffrance. Pourtant, c'est bien le cas. Il a décidé, Dieu, d'exercer sa souveraineté par rapport au mal en parlant et en expérimentant cette réalité. Et dans nos situations de souffrance, notre défi et mon défi, c'est vraiment de réussir à prendre Jésus avec nous. Finalement, de ne pas laisser la souffrance prendre le dessus de manière fondamentale, parce qu'elle a un côté fascinant, puis le mal a aussi un côté fascinant qui peut nous engouffrer dedans. Il ne s'agit pas de la nier, bien au contraire, ou penser qu'elle va disparaître d'un claquement de doigts, c'est souvent ce qu'on aimerait. Prendre Jésus avec dans une situation de souffrance, c'est dire qu'elle n'aura pas le dernier mot, et ça, c'est déjà dire beaucoup. Alors que nous puissions vraiment, je pense, lever les yeux vers qui est Dieu réellement, qui est Jésus pour nous en tant que maître et sauveur, et puis que l'on puisse prendre vraiment pour nous Jésus avec dans les situations qui sont les nôtres, de mal, de souffrance qu'on peut expérimenter. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant, et puis je propose qu'on amène les éléments de la Sainte Cène. C'est un repas que l'on prend le plus régulièrement possible, malgré la situation sanitaire, parce que ce repas nous dit vraiment ce que j'essayais d'exprimer dans cette prédication. C'est de se dire, on prend d'une certaine manière Jésus avec nous pour la semaine qui s'ouvre. On prend Jésus avec nous dans ce qu'il a pu vivre en notre faveur. Il n'était pas obligé de le vivre et il l'a vécu pour nous comme un geste d'amour qui nous dépasse. Et en se souvenant, dimanche après dimanche, en étant à son écoute, en louant Dieu par rapport à cet amour qu'il exprime pour nous, on vit vraiment cette réalité-là que Jésus est avec nous. Alors que lorsque vous aurez ce bout de pain entre vos mains, lorsque vous aurez ce verre de vin avec vous, vous puissiez réaliser et expérimenter que Jésus est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. C'est en ce Jésus-là que nous plaçons notre confiance et que nous expérimentons la réalité de la foi qui fait toute la différence. Jésus, il est avec nous parce qu'il n'est pas resté coincé sur sa croix, il n'est pas resté dans son tombeau. Il est avec nous parce que nous le croyons vivant auprès du Père. Et lorsque l'on prend ces éléments-là, qui sont des éléments tout simples, qui nous rejoignent là de nouveau dans notre humanité, dans qui on est, du pain, du vin, il n'y a rien de plus quotidien que ça, on dit quelque chose de simple et de magnifique à la fois, c'est qu'on croit que le ciel n'est pas vide, mais qu'il y a quelqu'un qui, de là-haut, pense à nous, qui, de là-haut, est solidaire avec nous de tout ce que nous pouvons vivre, et en particulier ce que nous pouvons vivre de souffrant. Alors que, voilà, ce matin, de manière particulière, puis peut-être chez vous aussi, si vous avez l'occasion juste de préparer un bout de pain, un bout de raisin, on puisse communier ensemble avec Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que ton acte d'amour nous permet de vivre tout simplement la vie telle qu'elle se présente à nous. Seigneur, on veut aussi te dire que sans toi, on se demande bien comment on ferait et simplement te remercier pour ce secours que tu mets dans nos vies, ce secours que nous pouvons expérimenter parce que tu es notre sauveur. On n'a pas peur de dire en tant que chrétien qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on n'est pas suffisamment armé pour vivre cette vie sans sauveur. Ça peut peut-être passer pour de la faiblesse, des chimères, mais ce n'est pas le cas. Seigneur, merci parce que tu viens nous sauver précisément là où on a mal, là où on souffre, là où on est limité. Et merci parce que tu viens nous rejoindre par ta présence dans ces lieux-là de nos vies. Merci parce que nous pouvons le vivre ensemble, merci parce que nous pouvons communier avec toi directement et que nous pouvons le faire les uns avec les autres à travers ce repas. Que tu bénisses chacune, chacun présent ce matin, chacune, chacun derrière son écran, pour que ma prière, c'est que tous nous puissions te prendre avec là où nous en sommes. Amen.